Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale
infernale.
La matinale infernale, c'est l'émission de Radio Graphite tous les samedis matins à 8h15 qui dynamite votre réveil. Elle vous est proposée dans le cadre d'un partenariat avec les bibliothèques de Compiègne. En effet, j'ai mené de nombreux ateliers dans des classes et à la bibliothèque Saint-Corneille pour former des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio. Leurs productions ont ensuite été enregistrées sous la forme de cette émission. Je suis Aurore, j'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite comme La Voix de la Plume ou les rendez-vous culture des bibliothèques. Ce matin avec moi, ce sont des lycéens de Compiègne qui seront mes chroniqueurs. Bienvenue à la seconde 3 de Pierre Dailly. Ces élèves ont eu la chance cette année de participer à un projet culturel assez vaste et à travers leurs chroniques, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur ce qu'ils ont lu ou vu. Nous espérons que ce sera inspirant. Eh bien, je souhaite la bienvenue dans le studio ce matin à Pierre, Marie, Kathleen, Ethan, Clara, Zoé et Colin. Eh bien, si vous êtes prêts, on va commencer et je laisse la parole à Pierre. Pierre, de quoi voudrais-tu nous parler ce matin ?
Je suis un assassin, j'ai l'image la plus basse qui puisse exister dans la société, mais c'est plus facile à supporter que les 20 ans de mensonges d'avant. Voilà la citation de Jean-Claude Roman, assassin connu dans les années 90 pour avoir tué toute sa famille après une succession de mensonges en tout genre. Cette tragédie a été retracée dans le livre « L'adversaire » d'Emmanuel Carrère. L'auteur s'attarde sur des moments marquants de la vie de Jean-Claude Roman jusqu'à l'accomplissement de son crime et la vie après le crime. Le récit de Jean-Claude Roman débute avec la découverte des cadavres de la famille par un ami proche du protagoniste. Ce début de récit amène directement le lecteur au cœur du sujet très tragique. Cette approche de l'histoire est appelée « in medias res ». Elle apporte du dynamisme au roman. On découvre ensuite que Jean-Claude a menti durant 18 ans sur son métier. Il n'était pas médecin et n'a jamais travaillé à l'OMS, mais aussi qu'il est responsable de la mort de sa famille alors qu'il paraissait être innocent au départ. Dans l'adversaire, l'auteur cherche à comprendre pourquoi Jean-Claude Roman en est arrivé à tuer toute sa famille. Pour ce faire, il retrace sa vie de façon chronologique et nous fait découvrir des moments marquants. Il nous apprend que dans sa jeunesse, Jean-Claude cachait ses sentiments. D'un côté, on lui avait appris à ne pas mentir. De l'autre, il ne fallait pas dire certaines choses. Il ne fallait pas causer le chagrin. On comprend ici que Jean-Claude cachait des choses embarrassantes dans sa jeunesse et a conservé cette habitude. L'auteur nous montre ici un élément majeur, la succession de mensonges qui mène au crime final. Parfois, l'auteur manque d'informations sur la vie de Jean-Claude. Pour combler ce manque, l'auteur fait part de sa propre expérience. On voit alors que l'auteur se base principalement sur son rapport au mensonge pour justifier l'acte. Ensuite, la place à laquelle se positionne Emmanuel Carrère est judicieusement choisie. Il est narrateur pour raconter la vie du bourreau et joue le rôle de son propre personnage lors du jugement. Ses positions divergentes lui permettent de prendre une certaine objectivité, mais cette dernière n'est pas toujours respectée. À la fin du livre, il se rapproche notamment d'amis du coupable pour qui Jean-Claude est une bonne personne. De plus, dans les dernières pages du livre, Emmanuel Carrère nous dépeint le portrait d'un homme qui cherche à se repentir dans la religion et nous fait en quelque sorte oublier le crime commis. L'adversaire est un livre inédit qui s'inscrit dans la continuité des œuvres d'Emmanuel Carrère. Il permet au lecteur de voir la face cachée de cette terrible tragédie et d'un autre point de vue que la presse. Le roman éveille aussi bien la colère du lecteur que les frissons.
Eh bien, merci Pierre. Je ne connaissais pas cette affaire criminelle, en vérité. Et du coup, ça donne envie d'en savoir plus. Il y a d'autres choses que j'ai lues sur des vraies affaires, comme par exemple sur le petit Grégory, ou il y a d'autres auteurs d'affaires judiciaires qu'on a reçues à la bibliothèque de Compiègne, notamment. Et du coup, c'est très intéressant. Merci beaucoup Pierre. En plus, tu es passé en premier, et c'est pas facile de passer en premier. Eh bien, on va suivre avec cette fois-ci un film, mais pas n'importe lequel, c'est Marie qui va nous en parler.
C'est un film censuré dans son pays de production, mais ovationné à
à Cannes. Le film retrace l'histoire de deux jeunes filles, Kenna et Ziki, qui vivent au Kenya. Elles vont tomber amoureuses l'une de l'autre alors que tout les oppose. Elles se cachent et vivent leur amour secrètement. Malgré leur discrétion, elles vont être surprises en train de s'embrasser et être battues. Dans ce film, on a aimé que cela traite de l'homosexualité, qui est un sujet brûlant, actuel et sensible. Au Kenya, l'homosexualité est interdite. Le film n'a été diffusé qu'une seule semaine dans les cinémas de la capitale, ce qui ne l'a pas empêché d'être retenu dans la sélection Un certain regard du Festival de Cannes. Il est dommage que le couple lesbien soit stéréotypé par un garçon manqué et une fille très féminine. Cette parade a sûrement été faite pour contrer la censure kényane. On retrouve aussi des personnages complexes et réfléchis, tels que Black Star, un ami de Kenna. Au début du film, il était contre la relation entre Ziki et Kenna. Il souhaitait épouser cette dernière. Cependant, étant impuissant face à l'amour de ses deux filles, il finit par accepter leur relation. À la fin du film, on le retrouve heureux de voir Kenna. Lorsque la relation lesbienne des deux filles éclate au grand jour, la réaction de leurs parents respectifs est assez étonnante. Le père de Kenna réconforte sa fille. Au contraire, sa mère la rejette. Cette situation est réaliste et agréable à voir à l'écran, car chacun a une opinion différente sur l'homosexualité. La présence de scènes où les personnages ne parlent pas, où l'on nous montre uniquement des images de Nairobi, des scènes de vie quotidiennes qui intéressent peu, peuvent perturber le visionnage du film et perdre dans le spectateur. Malgré cela, les couleurs vives et éclatantes nous familiarisent plus rapidement à la culture des personnages. Ce film permet de mettre en avant les problèmes que les personnes homosexuelles rencontrent dans d'autres pays. Ce film permet une prise de conscience sur le quotidien des personnes homosexuelles dans des pays où ce n'est pas accepté, dans un décor coloré et réaliste.
Merci beaucoup Marie. C'est vrai que je pense qu'en France, quand on pense au Kenya, on pense aux safaris, aux vacances et à des choses comme ça très légères. Et on ne s'imagine pas qu'il y a encore des pays où il y a des choses qui sont courantes pour nous, qui ne sont pas encore acceptées. Des droits que les personnes n'ont pas et que nous on a depuis longtemps. Donc c'est bien d'avoir eu envie de parler de ce film-là que vous avez vu en classe. Hein. Absolument. Eh bien, merci beaucoup. On va enchaîner d'ailleurs sur un autre film, pour le coup, une thématique beaucoup plus, comment on pourrait dire ça, légère. Un film que vous n'avez pas vu en classe, pour le coup, mais qui a marqué quelques élèves et ils ont eu envie de nous en parler. Ethan, c'est toi qui vas nous en parler d'ailleurs.
Alors, je vais vous parler de Tom Cruise, d'Avion de chasse, de Scène à couper le souffle. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler du dernier Top Gun. Bienvenue à tous sur notre chronique radio consacrée à Top Gun Maverick, le film de Joseph Kosinski sorti en 2022. Top Gun Maverick est la suite tant attendue du film culte de 1986, Top Gun, qui a été un véritable succès au box-office et qui a marqué toute une génération. Dans cette nouvelle aventure, nous retrouvons Tom Cruise dans le rôle du célèbre pilote de chasse Pete Maverick Mitchell, qui est maintenant un instructeur à la Top Gun Academy. Le film est une véritable explosion de sensations fortes, avec des scènes aériennes à couper le souffle et une bande-son qui nous replongera dans l'univers du film original. Le spectateur est face à une intrigue passionnante qui met en lumière les défis auxquels les pilotes de chasse sont confrontés, ainsi que les relations complexes qui se nouent entre eux. Le casting est également impressionnant avec des acteurs tels que Miles Teller, Jennifer Connelly, John Hamm et Val Kilmer, qui reprend son rôle emblématique de Tom Iceman Kazanski malgré sa maladie. Pour les besoins de réalisme du film, Tom Cruise a souhaité que les acteurs s'entraînent tels de vrais pilotes de chasse en les soumettant aux conditions de vol en avion furtif. Top Gun Maverick est un film à ne pas manquer pour tous les fans de l'original, ainsi que pour tous ceux qui apprécient les films d'action à grand spectacle. Nous vous encourageons à découvrir cette nouvelle aventure de Maverick et ses collègues pilotes de chasse.
Eh bien écoute, moi je ne l'ai pas encore vu, et du coup ça m'a donné envie de le voir, ta chronique. Donc je ne sais pas s'il est disponible sur une plateforme de streaming quelconque, mais j'irai voir ça avec plaisir. Et puis tu parlais de la bande originale, alors tout le monde je pense a en tête un peu la musique du premier film. Je pense que ça serait le moment de faire une petite pause musicale pour écouter du coup la musique de celui-ci. Il s'agit de Lady Gaga d'ailleurs, Hold My Hand. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need
into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide.
Et nous voilà de retour dans la matinale
infernale.
Nous sommes toujours avec les secondes 3 du lycée Pierre Dailly qui nous parlent de leurs pratiques culturelles, de ce qu'ils ont vu, lu, regardé, de choses auxquelles ils ont assisté. C'est très intéressant d'ailleurs. Et on va d'ailleurs continuer avec Kathleen qui va nous parler d'une pièce de théâtre.
On ne peut vaincre sa destinée. Cette citation de Jean Racine reflète parfaitement l'amour interdit de ses deux amants. Adulé par Louis XIV, Racine distrait la cour et la noblesse par ses pièces de théâtre. Racine exprime avec succès l'amour passionnel et interdit. Il excelle dans la tragédie amoureuse avec l'œuvre de Phèdre. Phèdre est une pièce de théâtre écrite par Jean Racine en 1677 et jouée la même année. Il décrit l'amour contrarié de Phèdre et Hippolyte. La pièce comporte 5 actes, elle est écrite en vers, plus précisément en alexandrin, ce qui donne plus de rythme et d'éloquence à la pièce. Jean Racine était un dramaturge et poète français. Il va consacrer ses œuvres en privilégiant ses passions amoureuses. Cette pièce de théâtre va susciter chez le lecteur ou le public la pitié et la compassion. C'est un exemple type de la tragédie classique. Phèdre, seul et bouleversé, par son époux Thésée étant parti à la guerre, se retrouve seul avec Oenone, sa confidente. Cette pièce nous raconte l'amour interdit qu'éprouve Phèdre envers son beau-fils Hippolyte, fils de Thésée et Antiope. Alors qu'Hippolyte vit un amour impossible avec Arcie, grande rivale de son père, une rumeur se répand à Trézène. Thésée serait mort. Ainsi, Phèdre décide alors d'avouer son amour à Hippolyte, mais par la suite, on apprend que Thésée est toujours vivant. Suite à cela, Phèdre et Oenone vont mettre en place une stratégie afin d'innocenter Phèdre en retournant la situation en accusant Hippolyte. Le mensonge et la trahison règnent durant toute la pièce. Lors de la pièce de théâtre mise en place au lycée par des professionnels, les acteurs ont fait en sorte de rendre la pièce plus réelle et plus vivante. En effet, ils ont fait le choix d'inclure un acteur dans le public, ce qui rend la pièce plus dynamique et plus réaliste. Je trouve que la règle des trois unités qui vise à renforcer l'illusion théâtrale en réduisant l'écart entre action et représentation dans Phèdre provoque un enchaînement rapide des événements et rend ainsi la pièce pleine de rebondissements. Le jeu des acteurs a rendu la pièce plus réaliste et nous a immergés dans l'univers mythologique de Phèdre.
Merci beaucoup, Kathleen. Moi, ma pièce préférée de Racine, c'est Bérénice. Mais Phèdre, en vrai, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas te dire. Mais ça me donne envie. C'est vrai que c'est toujours à base de duo amoureux ou trio amoureux, où il y a toujours des passions contrariées qui se jouent avec Racine. On va laisser le théâtre un petit peu de côté et puis on va parler d'autre chose, surtout d'un sujet qui est basé d'un film, mais qui va poser des questions très intéressantes. C'est Zoé et Colline qui ont préparé leur sujet et qui vont vous poser une question.
Avons-nous tous vraiment conscience des difficultés auxquelles les agriculteurs sont confrontés ? Hubert Charuel, de son côté, a pris les choses en main et a décidé de faire de ses adversités un film. Paru en août 2017, Petit Paysan est un mélange entre documentaire, fiction et thriller. Swann Arlo, alias Pierre Chavange, et Sarah Giraudot, alias Pascal Chavange, se retrouvent tous deux pour jouer dans ce drame destiné aux jeunes adultes et adultes. Pour un premier long-métrage, Hubert Charuel a fait une entrée plus que remarquée, remportant ainsi, en 2018, 3 Césars, dont celui du premier meilleur film.
Dans cette production, Pierre est un paysan passionné qui s'occupe de son troupeau de vaches laitières. Cependant, depuis quelques semaines, un virus arrivé de Belgique est en train de détruire tous les cheptels de la région. Cette maladie atteint peu à peu son élevage. Il décide alors de faire appel à sa sœur vétérinaire pour l'aider à dissimuler aux autorités sanitaires l'état préoccupant de ses vaches malades. En effet, si les autorités l'apprennent, tout son troupeau sera abattu. Dans cette projection poignante, nous verrons que Pierre est prêt à tout pour sauver ses bêtes, et même à corrompre sa sœur, voler une vache, ou bien encore faire de fausses déclarations à la gendarmerie. Pierre sombre progressivement dans une spirale de mensonges au point de ne plus pouvoir cacher la maladie, chose qui le mènera lui et ses bêtes au point le plus bas.
Oui, exactement, Colline. En effet, les enjeux de petits paysans se concentrent autour de l'agriculture, l'élevage et la maladie. Sur la forme, je trouve que le film est très convaincant, notamment grâce au jeu des acteurs. Swann Arlo, dans son personnage, arrive à lui tout seul à nous faire vivre la complexité des métiers agricoles. Il s'accorde parfaitement avec les nombreux décors, bruitages et les choix de cadrage qui sont on ne peut plus réalistes. Mais justement, n'empiète-t-il pas trop sur les autres personnages ? Qu'en penses-tu, Colline ?
C'est une très bonne remarque, Zoé. Personnellement, je trouve que dans Petit Paysan, le premier rôle prend une trop grande importance et cache les seconds. À certains moments, nous ne comprenons même plus le lien entre les personnages de l'histoire. Aussi, le film paraît un peu caricatural. Dès les premières secondes, on remarque que les vaches prennent une grande place dans la vie de l'éleveur au point qu'il en rêve chaque nuit.
Néanmoins, Colline, sur le fond, j'estime que le scénario aborde avec justesse les problématiques environnementales et économiques des exploitants agricoles. Par exemple, quand Pierre se réveille après une courte nuit, il est déjà totalement habillé. Cela nous révèle donc la subtilité de ce monde et le dévouement qu'il porte à son travail.
Je suis du même point de vue que toi, Zoé. Cependant, le film peut comporter quelques scènes violentes pouvant heurter la sensibilité du jeune public. En effet, lorsque Pierre entreprend de tuer et d'abattre ses vaches afin de protéger le reste du troupeau, cela peut paraître choquant. Pour continuer, au fur et à mesure que la projection évolue, nous en découvrons une nouvelle facette. Le film prend un tournant plus fantastique. Il plonge presque dans la fiction à cause de cette maladie surnaturelle et dénaturalise alors le sujet initial.
Cela demeure très vrai. D'autre part, au cours de l'histoire, on surprend quelques scènes peu crédibles mais comiques. Ainsi, quand les gendarmes lui posent des questions à propos de la vache disparue, il se défend en disant qu'il l'a mangée. L'agent surenchère et lui commande donc des morceaux de viande pour en faire un barbecue. Chose que Pierre accepte pour passer sous les mailles du filet. L'humour peut donc se montrer plaisantin, mais parfois noir et grossier.
Pour finir, la fin du film semble surprenante, voire imprévue. La chute s'achève sur un destin confus pour notre éleveur. Que va-t-il devenir sans ses vaches ? Nous pourrions généraliser en nous demandant ce que pourraient devenir les agriculteurs sans leurs bêtes. La question trotte dans la tête et invite au dialogue.
Pour conclure, Hubert Charuel, fils d'agriculteur, a voulu montrer au grand public les difficultés et la pression exercée dans le monde agricole. Le mélange de genres est un choix audacieux et on peut dire que le pari est globalement réussi.
Eh bien, merci les filles pour cette analyse cinématographique du film Petit Paysan, que l'on vous conseille du coup vivement pour être plus à même de comprendre du coup les problématiques des agriculteurs. Cette émission va bientôt toucher à sa fin. Je remercie mes chroniqueurs de ce matin qui étaient Pierre, Marie, Kathleen, Clara, Zoé, Colin et Ethan. J'espère que ça vous a plu. On aura l'occasion d'écouter encore la seconde 3 une autre fois dans la matinale infernale. Et il faut savoir aussi que là, vous n'avez entendu que quelques élèves, mais pour faire ces chroniques, ils étaient en groupe. Il y en a souvent que un qui a pris la parole, ou deux. Mais ils étaient plus nombreux que ça à participer, en tout cas à la création de ces chroniques. Donc voilà, sachez-le, c'était un travail d'équipe. On va terminer en musique avec Stromae, Mon amour, puisqu'on a vu les passions tragiques de l'amour avec Racine, et puis le côté comique avec Jeu de l'amour et du hasard. Donc j'avais envie de faire un petit clin d'œil à ces deux pièces-là, en vous passant Stromae pour terminer. Sachez que les podcasts de l'émission seront bien sûr disponibles, et le sont déjà pour les émissions passées, sur graphite.net, sur le site des bibliothèques de Compiègne ou même sur mon blog aygbleu-créatricedunivers.fr. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end, chers auditeurs et chères auditrices, et je vous dis à bientôt dans la matinale
infernale.
Y'a d'abord eu Natacha, mais avant y'avait Nathalie, puis tout de suite après y'a eu Laura, et ensuite y'a eu Aurélie, évidemment y'a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y'a eu Eva et Valérie, mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, oui mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis. Oui c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui bien sûr j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Pour toujours.
Non, c'est pas ce que tu crois. Je sais, ça paraît bizarre. Non, c'est pas ma faute à moi, mais sans doute la faute au hasard. Pourquoi tu t'en vas? C'était la dernière fois. C'était juste un coup d'un soir. Ça comptait pas. De toute façon, je sais qu'au fond de toi, tu les aimes bien les connards. Mon amour, mon amour, oui, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Oui, pour toujours.
Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire? Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus.